Je suis à Genève avec Jean-Laurent Chotan. On a eu de la peine à se trouver, mais on s'est trouvé.
Voilà, bonjour. On a fini par se trouver, c'est l'essentiel.
C'est l'essentiel. Et c'est pour parler de Chroma, qui sort le 6 juillet sur les écrans, en tout cas en Romandie. Chroma, qui est en fait c'est la rencontre de deux destinées malmenées par la vie. On sent qu'il y a des fissures, des blessures, et qui vont se trouver. Alors, on ne va pas tout dévoiler, mais comment est né ce projet, Jean-Laurent ?
Dans mon petit cerveau malade. comment est né ce projet ? La fiction, c'est toujours compliqué à dire d'où ça part, mais évidemment, c'est des rencontres, c'est des observations, c'est du vécu, et puis c'est une grande part d'imaginaire. Donc il y a un peu un mélange de tout ça. J'ai connu des gens plus ou moins qui ressemblaient à ces personnages, et puis après. Au-delà de ça, déjà, ça me fait travailler, ça trotte dans la tête, et puis j'invente après des blessures à ces personnages-là. Je me dis, ah, peut-être lui, il avait vécu ça et tout ça, et puis du coup, je construis comme ça des histoires. Mais c'est vrai, j'ai pas pour ce film-là un moment où je me dis, voilà, c'est plus des choses comme ça qui m'ont imprégné, puis tout d'un coup, je me mets à écrire, je sais plus trop ce qui m'a nourri en fait.
Et justement, il y a une part d'imagination. Est-ce qu'il y a une part aussi, quand même, une dimension personnelle ? Dans tout artiste, il y a toujours une dimension personnelle. Et là, est-ce que vous êtes proche d'Alain, de Claire ?
Je pense que je suis proche des deux. Je pense que j'ai un peu cette dualité. Pour être honnête, il y a évidemment une part autobiographique. J'ai eu, quand j'étais gamin, des tocs à la suite de la mort de mon grand-père. Et ça, c'est un peu dans le film, les histoires de rêve. Alors, je ne voulais pas en faire des caisses aussi. Et sur ce personnage-là, je voulais laisser un peu mystérieux quel était son problème. Mais évidemment, et du coup, j'ai eu un peu ces tocs. Heureusement, j'en suis revenu. Mais ça m'a toujours fasciné, en fait. Et maintenant, je repère assez vite les gens qui ont tout d'un coup comme ça des manies. Et puis ça, voilà, je trouve qu'il y a quelque chose de fascinant parce qu'il y a un côté absurde et en même temps, c'est réel pour ces personnes-là. Comme les phobies. Et puis. Je me suis rendu compte aussi que c'était, on peut dire, ces personnages, ils sont fous, ils ont quelque chose de pathologique, mais c'est, à mon avis, beaucoup plus courant qu'on ne le pense de la société et à des degrés différents, et je pense qu'ils nous ressemblent plus. Et puis, j'ai des côtés aussi d'elle, un peu. Des fois, je me souviens, il y a des trucs comme, par exemple, quand elle va dans une épicerie et puis elle casse tout parce qu'on ne lui répond pas, on lui parle mal. On l'ignore, exactement. Et je me souviens que j'ai habité à Plaie-Palais un temps et j'allais dans une épicerie en bas de chez moi. Et je crois que toutes les fois, je suis allé, je ne sais pas combien de fois, non, on ne m'a jamais dit bonjour, il est toujours au téléphone. Et je me souviens avoir eu le fantasme de me dire, mais j'ai envie de tout casser là-dedans. Et donc, voilà, donc ça, c'est ma part. Je n'ai pas osé le faire dans la vraie vie et donc je me permets de le faire comme ça dans les films.
Il y a l'épicerie où on est ignoré, mais ça peut être d'autres situations de la vie où ces personnes qui se rencontrent vont trouver une sorte de thérapie, en tout cas réparer leurs blessures. Et puis ces blessures, on peut trouver, Alain, le personnage, trouve dans le piano, qui a de nouveau une résonance avec son passé. Vous, c'est le cinéma. Donc justement, vous parlez de ce qui peut toucher tous les spectateurs, les spectatrices. Et comment avez-vous élaboré justement tout le scénario ? Vous parlez d'imaginaire, mais aussi de résonance avec ce que vous avez observé. Comment ça se déroule quand vous écrivez ?
Alors moi, j'écris vraiment à l'instinct, c'est-à-dire que je me renseigne pas d'un point de vue véracité, de problématique. Et donc j'écris à l'instinct, je construis un personnage, je lui crée une blessure secrète, un passé. Et puis après, je me dis, ce personnage-là, il va agir de cette façon et... En l'occurrence là, je me suis dit, mais on a un personnage qui est dans la non-vie, qui a peur de mourir, qui a peur d'attraper des maladies, qui a peur de s'attacher. Et qu'est-ce que ça fait s'il va rencontrer un boulet de canon comme cette fille qui elle a une autre problématique qui a subi un traumatisme, je pense, plus grave que lui, et qui est dans quelque chose d'un peu plutôt autodestructeur. En fait, elle va chercher. L'amour qu'elle n'a pas eu, mais d'une façon un peu, vu qu'elle a été...
Presque.
Voilà. Et puis comme elle a été souillée, il y a ce côté un peu de noirceur et de colère chez elle. Et donc voilà, je me suis dit...
Mais, et frondeur.
Et totalement frondeur, mais avec ce côté aussi envie quand même. Ça, c'est le typique. Après, je me suis renseigné plus tard des gens qu'on dit qu'on trouble de la personnalité borderline, qui est assez récent comme diagnostic. Avant, on disait que c'était bipolaire. Enfin, il y avait tout un... Et ça concerne une assez grande partie de la population, j'ai remarqué. Et en fait, elle vit soit dans un côté idéalisé, c'est-à-dire qu'elle recherche le prince charmant, mais en même temps, comme elle a cette souillure sur sa sexualité et tout ça, elle est aussi dans le côté de se faire du mal. Et je me suis dit, mais en fait... Est-ce qu'ils vont céder en premier temps ou est-ce qu'au départ ils vont se tirer vers le bas, c'est-à-dire que voilà, ils vont. Mais voilà, donc au début ça fait des étincelles parce que évidemment, mais et petit à petit ils vont devoir essayer de régler leurs problèmes pour pouvoir peut-être avancer
ensemble.
Voilà. Mais ils ont quelque chose à régler d'abord et au début ben ils se court-circuitent beaucoup quand même et voilà donc c'est.
Et bon, vous avez quand même dévoilé la souillure qu'elle a vécue, donc je peux en parler, je voulais pas en parler selon ce que vous vouliez dire. Il y a aussi une urgence, puisque la personne qui l'a souillée est sur le départ. Il y a une urgence pour elle.
Oui, c'est ça. En fait, au départ du film, elle revient dans cette ville pour aller voir son père, qui est malade, ça on le sait assez vite, et elle n'y arrive pas. Et donc, en fait, elle se met à observer ses voisins, et puis elle vit comme ça un peu dans une fiction, c'est comme sa télévision, elle regarde, elle s'identifie à une jeune femme, à un vieux professeur, puis tout d'un coup elle est captée par un jeune homme qui a des phobies étranges, et pour moi l'idée c'était de se dire, comme elle n'arrive pas à affronter ce qu'elle doit affronter, elle va se mettre en tête d'essayer d'aider ce jeune homme et de soigner ce jeune homme, mais à mon avis pour de mauvaises raisons, parce que finalement, on va devoir être face à elle-même. Et donc, oui, il y a c'est pas totalement expliqué clairement dans le film, mais on le comprend quand même. Enfin, oui, il s'est passé un truc avec son père. Son père est malade. Elle croit qu'il va mourir, ce qui est plus. Enfin, et elle va devoir régler ça, en fait.
Et le choix des comédiens, ça vient à quel moment? Déjà au moment de l'écriture ou ultérieurement?
Pour ce film-là, ultérieurement, parce que j'ai mis assez longtemps à écrire. Ce film-là, il était compliqué à monter. En plus, j'avais écrit des versions beaucoup plus dures où il y avait des choses qui étaient encore plus noires. Et beaucoup de comédiens ont refusé de le faire. Et puis, ce qui était peut-être, à mon avis, je pense, avec le recul, je pense qu'ils avaient raison. Et puis, j'ai fait beaucoup de casting. J'ai vu beaucoup de gens. Et j'avais vu Solène assez tôt.
Rigaud
qui fait le rôle de Claire. Et puis, je la trouvais un peu jeune pour le rôle. En fait, elle n'est pas jeune, elle a 28 ans, mais elle fait très jeune. Et je me suis dit, ça va être quand même très malsain pour certaines... Enfin, voilà, il y a un côté... Puis après, avec mes recherches, je me suis rendu compte que les gens qui souffraient de ça aussi, ils avaient cette espèce de dualité, des fois, très enfantin, très
juvénile.
Et puis, on s'est rendu compte, en faisant des essais costumes aussi, que des fois, elle pouvait paraître totalement femme et des fois petite fille. Et je me suis dit, mais c'est très intéressant. Et il faut avouer aussi que c'était de loin la meilleure comédienne que j'avais vue. Et je me suis dit, à un moment donné, c'est ça qui compte, c'est la meilleure comédienne. Et je ne regrette pas parce qu'il devait y avoir d'autres personnes qui avaient d'abord accepté de faire le film. Et puis, comme vous savez, des fois pour les films, il y a des choses de coproduction avec la France, avec la Suisse. Il faut que le comédien soit suisse, il faut que ce soit belge et tout ça. Donc il y a toujours ce... Et puis là, je me suis battu et je me suis dit, non mais en fait, il faut que ce soit elle. Et elle a fini par accepter alors que j'avais... Je lui avais d'abord dit non. Et voilà, je pense que c'est des heureux hasards, des moments où j'ai dû passer par tout un... Mais voilà, c'était assez long, je crois, plus d'une année et demie de casting. Et puis Aurélien, c'était un peu...
Cayman,
voilà, c'était différent. C'est que là, en l'occurrence, j'ai eu une coproduction belge. Et là,
l'orthographe du nom, on sait que c'est la Belgique.
Voilà. Et je me suis dit, il faut que je trouve un comédien belge. Il faut quand même que je joue le jeu parce qu'il y a deux Français avec Patrick Chenet. J'ai regardé des films, des séries, et puis je suis tombé par hasard sur une série qui s'appelle La Trêve, une série belge. Et la deuxième saison, il joue un jeune personnage qui est accusé d'avoir violé une fille, mais on ne sait pas trop. Et j'ai vu une première scène avec lui, il m'a fasciné. Je me suis dit, waouh, il a quelque chose, il a
un
truc. Voilà, je ne connaissais pas, il avait un espèce de truc étrange et tout, et je l'ai appelé. Enfin, j'ai réussi à obtenir son nom et par mon agent, et je l'ai appelé, et il a lu le scénario, il m'a dit, mais je suis partant, et ouais. Voilà.
Et Alain Chenet, le vieux professeur, et Lauriane Gignéron, on peut en parler aussi.
C'est ça. Alors Chenet, pour ce rôle-là, évidemment, c'est un rôle, je ne vais pas tout dévoiler, mais qui n'est pas simple à faire. Et donc, beaucoup de gens ont refusé de faire ce rôle-là. Et Patrick Chenet, à un moment donné, c'est l'agent qui a eu cette idée, mon agent français, et puis je lui ai... Il a lu le scénario, puis il a dit « c'est un petit rôle pour moi, évidemment, mais j'aime bien le scénario et je suis assez OK de me mettre au service d'un scénario, même si c'est un petit rôle, parce qu'en fait, je ne lis pas beaucoup de scénarios qui sont comme ça. C'est vrai que c'est un peu atypique, et voilà. Et j'ai trouvé ça assez grand seigneur, de te dire « bon, OK, je joue, sympa, je le fais... je le fais pas, voilà, je le fais parce que dans le cadre du film. » Donc c'est vrai qu'il n'a pas un rôle énorme, mais... c'est assez marquant, et je me suis dit, c'est un truc casse-gueule, je peux pas avoir n'importe qui, parce que évidemment la jeune fille a une certaine fascination pour le vieux professeur aussi, et il fallait quand même qu'il ait un certain charisme, une certaine voilà, et ça c'est le côté un peu de ces comédiens français de ces âges-là, un peu vieux roublard, faut avouer, qui savent être là quand ils doivent être là, c'est-à-dire que c'est assez fascinant à voir,
c'est généreux aussi.
Oui, c'est généreux, et puis ils sont ouais, ils ont du métier, c'est-à-dire qu'à un moment donné ils ont pas grand-chose, mais quand ils sont là on les voit. Voilà, et
ils n'ont plus rien à prouver, donc ils acceptent aussi de participer pour soutenir le projet.
C'est ça. C'est du coup, c'est vrai qu'ils s'en fichent de faire mon film. Enfin, ça ne va pas changer sa carrière. Mais du coup, voilà, ils ont... Et j'ai trouvé ça intéressant parce qu'ils ne sont pas tous comme ça. Hein. Il y en a d'autres qui ont plus ce truc d'image. Et voilà. Et Lauriane, c'est un peu pareil. Lauriane, je l'ai... Je l'ai contactée. Et puis, elle m'a... Pareil, c'est aussi un petit rôle. Elle venait de faire Quartier des Banques. Et tout ça. Elle avait vu la série que j'avais fait, je crois, et puis voilà, exactement. Et puis elle aimait bien, et puis on s'est vu, puis un peu pareil, même état d'esprit. Elle a dit, mais moi j'aime bien le scénario, ça m'intéresse. Et c'est vrai que c'est pas de la figuration. Je trouvais que cette fille, elle avait une importance, que la jeune fille, elle s'identifiait. Il y avait presque un cliché de beauté qu'elle devait s'identifier. Et ce que j'aimais bien, c'est que c'est un rôle comme ça. Oui, à la limite de la figuration, mais elle est très différente pour lui que pour elle. Elle le voit une sorte de fantasme de féminité, et lui, elle, c'est un peu l'emmerdeuse de voisine. Et je trouvais ça assez marrant, en fait, d'avoir cette perception. Et Lauriane, elle a ce truc physique qui est très presque irréel, en fait. Elle a ce truc, et du coup, je trouvais que ça donnait ce côté. Quand on la voit dans le rêve à la fin, j'aimais bien. Il y avait l'impression que c'était un personnage un peu irréel, comme ça, un peu une vision un peu de leur propre fantasme ou de.
Il y a un protagoniste dont on n'a pas encore parlé, c'est la ville, qui reste très anonyme quand même. Les Genevois reconnaîtront un lieu que je ne vais pas citer, que j'ai fréquenté, et il y avait une volonté quand même que ça reste anonyme, que la ville reste un support au personnage.
Oui, en fait, je me suis dit au départ de ce film, c'est un film qui est assez casse-gueule, parce que ça tient sur pas grand-chose, ça tient beaucoup sur les comédiens, et j'avais pas envie de faire un film ultra-réaliste, un film comme ça, un peu social, comme pourraient faire les Anglais, les Belges, un truc sur des personnages avec des névroses, et voilà, je voulais pas faire une sorte de faux documentaire et tout, donc j'avais envie d'amener une dimension un peu onirique au film, hein, quelque chose d'un peu décalé, et je me suis dit, j'ai envie qu'on sache pas trop où ils sont, c'est-à-dire que l'idée, c'est qu'ils sont dans une ville. Ils le vivent d'une façon un peu oppressante, et j'aime bien l'idée que ça, voilà, c'est la ville reflète un peu aussi leur état d'esprit, et c'est un peu flou, voilà, je voulais juste que ça soit pas très sympathique, et évidemment Genève, c'est tellement beau et propre partout que c'est compliqué à faire un drame à Genève. Et moi, au départ, je vais tourner à Bruxelles, c'est vrai que mon esthétique, il serait plus d'aller tourner à Hambourg ou à New York. Et je pense que c'est plus facile. Et je me suis dit, mais c'est marrant, Genève, il y a aussi ce côté qu'ont les personnages aussi, et surtout lui, comme ça, très carré, très propre, très. Et donc, on a essayé de le filmer d'une façon étrange. Et on a aussi, alors je ne sais pas si ça se remarque vraiment dans le film, mais changé toute la bande-son. C'est-à-dire que pratiquement tous les sons ne sont pas de Genève. C'est-à-dire qu'il y a un camion de glace belge, des sirènes de police belge qui sont comme des sirènes américaines. Donc il y a toute une bande-son qui est étrange, qui fait que, oui, je me suis dit, si le spectateur ne peut pas trop se raccrocher non plus à un lieu à où on est, et je me suis dit, ce n'est pas l'important. L'important, c'est eux dans une ville assez inhospitalière. Voilà.
Alors, j'ai peut-être fantasmé, moi j'ai cru reconnaître des sirènes d'ambulance françaises.
Alors il y a français, il y a belge, voilà.
Il n'y a pas fantasmé.
Non, il y a des sirènes de bateaux. Ils marchent au bord du lac. Il y a des sirènes de bateaux, je crois, de Hambourg. Enfin voilà, il y a tout un mélange, sans que ça soit non plus ultra présent, mais il y a un petit décalage par rapport à la réalité qui, je pense, change aussi peut-être du film suisse
traditionnel,
voilà. Et puis c'est vrai que j'ai eu la chance pour ce film-là d'avoir un grand mixeur, en fait, pour des circonstances. J'ai le mixeur qui a fait ce film-là, il a fait Léon, il a fait Jeanne d'Arc, il a fait le film d'Oliver Stone, là, Alexandre le Grand, voilà, et tous les films de Kusturica, tous les films de Asghar Farhadi. Et tout d'un coup, ça m'a amené une dimension. C'est vrai qu'on a l'habitude en Suisse d'avoir un peu. Et tout d'un coup, j'ai aussi des rencontres avec des techniciens où tout d'un coup, il m'a dit, mais. Ouais, il faut amener une dimension aussi sonore à ce film, sans en faire trop, parce qu'il m'a dit que les comédiens sont bien, l'important c'est ça, mais... Et j'ai trouvé intéressant, je me suis dit aussi, c'est vrai que dans le cinéma, on peut amener des couches et des couches de choses, et c'était intéressant aussi d'avoir cette pas confrontation, mais cet apport d'ouverture, voilà, d'ouverture de techniciens internationaux qui, je pense, amènent aussi quelque chose de différent au film, en fait, un film un peu plus international aussi.
On ne va pas tout dévoiler du film pour laisser les spectateurs et spectatrices découvrir ça le 6 juillet, mais il y a des scènes d'ouverture qui, en fait, vont venir en résonance à la fin, et puis après, entre ces deux débuts, fin, il y a tout le récit. Vous avez travaillé sur la photographie, qui est quand même particulière, très lumineuse au début, après plus sombre, avec Gabriel Lobos. On peut parler de la photographie ?
Oui, oui. Alors ça, c'était aussi une chouette rencontre. J'étais assistant pendant longtemps aussi, avant d'être réalisateur. J'ai rencontré Gabriel sur un projet et je l'ai observé. J'étais premier assistant et puis j'ai trouvé déjà qu'il avait une philosophie très intéressante de sensibilité. Il avait une sensibilité par rapport aux comédiens. Et puis en fait, ce projet-là, il y avait l'avant-première de Blue Mind Mine qu'il a fait, film suisse qui a gagné le prix du cinéma suisse. Et puis j'ai vu ce qu'il a fait dans ce film-là. Je me suis dit, waouh, c'est assez incroyable. Il a ce rapport de bonne distance avec les comédiens. Et puis on a discuté. Puis il a dit OK pour le film. Et puis on a réfléchi à ce projet-là. Il a une bonne idée. On a tourné avec des objectifs anamorphiques. Alors, je pourrais expliquer, c'est un peu les objectifs qu'utilisait John Ford pour faire les westerns et tout ça. Donc c'est des objectifs qui sont pas ronds qui déforment l'image, mais qu'on rechange après. Et ça donne donc il y a toute une réflexion de l'image pour en fait ça donne des flous assez étranges, des rapports, voilà. Et on a construit nos plans d'une façon. On s'est dit, on va pas multiplier plein de plans. On va essayer de construire des plans qui chaque fois racontent quelque chose. Et puis après, par rapport à la couleur et par rapport à la lumière, c'est vrai qu'on a essayé de faire aussi. On a regardé même des grands films américains aussi. On s'est dit, on a peint les murs, par exemple, ce qui se fait très peu dans les films suisses, c'est que normalement il y a des murs blancs. Alors il y en a chez lui, mais chez elle, je sais qu'on a trouvé un studio, au studio hôtel, on a tout repeint. Alors c'est la production de vos autres. Pourquoi vous faites ça ? Et on remarquait dans les films américains, ils ont toujours des murs sombres, ils éclairent. Voilà. Et on s'est dit, mais il faut qu'on amène une dimension visuelle un peu différente dans ce film-là, quelque chose de. Donc on a vraiment beaucoup réfléchi. J'ai eu la chance d'avoir aussi des grands chefs électro qui l'ont secondé pour faire une lumière assez étrange. Et puis après, on a eu un travail des couleurs, c'est vrai. On s'est dit, mais ce qu'ils font beaucoup dans les séries maintenant américaines et dans les films d'auteurs ou même hollywoodiens, ben voilà, on rajoute un peu de. Enfin, il y a un travail, voilà, et quelque chose d'assez sombre, d'assez. Ce que je dis, c'est que d'essayer de décaler de plus en plus ce film de la réalité. Voilà, on rentre dans ce film, cette histoire, puis après, au bout d'un moment, d'amener cette dimension sans que ça soit non plus too much, que ça devienne trop esthétisant. Mais voilà, d'amener. On a eu une ambition.
De travailler sur.
Voilà, sur l'image, de vraiment pas juste dire on filme des lieux et des comédiens et on les éclaire comme on peut. Voilà, et ce que font les Asiatiques, les Américains bien. Et je pense qu'on est, dans le cinéma suisse, on doit aussi, et je pense que ça se fait, je vois dans les derniers films que j'ai vus, on commence à voir vraiment le niveau, que ce soit en écriture, mais aussi technique. Et je pense que c'est important parce que. Évidemment, les gens, ils ont le choix entre d'aller voir Avatar et mon film, c'est le même prix. Donc, il faut qu'on est sur ce terrain-là, c'est une réalité, il faut qu'on essaye de rivaliser. Quoi.
Alors, Jean Rochotant, je rebondis sur vos propos, parce que justement, en voyant le film lors de la projection de presse, en voyant Chroma, j'ai pensé justement à certains films asiatiques où c'est esthétique sans être esthétisant. Donc, c'est justement, on travaille, on peaufine, sans tomber non plus dans l'excès. Ça, c'était très intéressant. On va parler de la bande-son et de la musique, surtout Malcolm Barth.
Oui, alors là, c'était pareil aussi. Alors là, il y a eu aussi un grand débat avec la production parce que je ne voulais pas de musique de film, comme on appelle à proprement dit, des nappes de son comme ça pour souligner l'émotion. Voilà, les plages musicales. Ce qui se fait, moi, j'ai un peu une allergie, c'est que... alors, c'est un peu une systématique et dans tous les films. Alors, quand c'est Hans Zimmer, dans les films hollywoodiens, ça peut passer parce qu'il y a. Mais voilà, moi je trouve qu'il y a. Et je me suis dit, ok, alors il y a eu ce travail que j'ai dit sur la bande son d'un point de vue montage son et mixage. Et puis du coup, pour la musique, je me suis dit, comme on a un personnage qui est pianiste, bah, par contre, le piano, quand il est là, il faut qu'il soit là et il faut que ça soit bien fait. Et donc ça, c'était une idée de mon producteur qui connaissait Malcolm. D'ailleurs, parce qu'en plus, l'idée du pianiste dans le film est une idée de mon producteur. Et je l'ai rencontré et c'est vrai que c'est un personnage, Malcolm. un peu fou. Et c'était très intéressant parce qu'il a amené aussi alors des subtilités, je ne sais pas si les gens verront, mais des choses où parfois il joue un peu mal, ou parfois il joue un peu stressé, où il est tout dans son monde, où il m'avait fait des plages pour les rêves ou de délire. Et puis il a fait un truc que j'ai trouvé brillant. Il y a une scène de rêve où ça part de Furelis et ça finit en marche funèbre. Et d'un point de vue de musique, je trouve ça brillant. Et donc ça, c'était pour Malcolm. Et puis après, je me suis dit, les seules choses de musique que je peux m'autoriser, c'est la musique qu'on peut dire qui est vraiment dans le film. C'est-à-dire que si un personnage écoute de la musique dans sa chambre et tout ça, et là, une grande question, qui peut faire ça? Et puis j'ai contacté Émilie Zoé, que je connaissais, d'un musicien, parce que quand j'étais jeune, je faisais de la musique, enfin, c'est un bien grand mot, mais avec des musiciens qui, eux, sont devenus très bons, qui avaient fait la bande son de mon premier film. Et puis un des musiciens que je connais joue avec Émilie Zoé, puis je l'ai contacté, je l'avais vu plusieurs fois en concert, et puis elle a vu le film, elle a dit, je veux voir le film, puis elle a dit, ok, prends les morceaux que tu veux. Et donc ça, c'était aussi chouette parce que du coup, voilà, ça m'a permis aussi d'amener pour la jeune fille des moments d'écouter de la musique, d'avoir des choses comme ça qui sont vraiment là. Et du coup, ça nous est intéressant entre la bande son et ces musiques. Et voilà, donc j'ai eu la chance d'avoir ces artistes suisses talentueux qui ont accepté.
Chroma est né grâce à beaucoup de rencontres multiples, que ce soit au niveau technique, photographique, les comédiens, la musique. C'est une histoire de rencontres, un peu comme les deux protagonistes principaux.
Je pense que le cinéma, c'est toujours une histoire de rencontres. C'est très étonnant parce que moi, je suis un peu, je veux dire, un autiste, mais c'est-à-dire que c'est compliqué. J'aime bien parce que ça me met en danger. Et donc, au départ, j'écris ma petite histoire tout seul de névrosé dans mon coin à la maison. Et puis, tout d'un coup, c'est vrai que ça prend des proportions. C'est-à-dire que tout d'un coup, on hésite à aller la montrer, on la montre. Puis d'abord, c'est les rejets, c'est non, c'est oui. Puis on passe par tous les stades. Puis à un moment donné, il y a des gens, c'est vrai, il y a des rencontres, des gens qui viennent sur le projet, puis qui, tout d'un coup, nourrissent le projet. Et c'est comme réalisateur, je dis toujours, on est le chef d'orchestre et souvent il y a des mauvaises idées aussi, c'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ont des mauvaises idées et on est là pour trancher, pour dire non, mais il faut aussi savoir, et moi j'ai pas du tout d'égo par rapport à ça, quand une idée elle est bonne, qu'elle vienne du stagiaire régie, c'est une bonne idée, il faut rendre à César ce qu'il y a à César, c'est qu'à un moment donné quand il y a quelqu'un qui a une idée brillante, moi j'essaye d'être là pour la saisir, et c'est vrai, et c'est aussi une question de chance, et je sais plus qui disait, c'est un réalisateur qui disait... C'est ça, c'est que construire son équipe, c'est une grande partie. Et c'est vrai que c'est vraiment très important. Et parfois, même une personne sur un tournage, ça peut casser l'équilibre. Donc moi, j'essaie de choisir pratiquement tout le monde sur le tournage, ce qui énerve peut-être des fois les producteurs et tout ça. Mais je pense que c'est très important parce que c'est pas pour me protéger. Parce que moi, je sais que sur le tournage, si quelqu'un me dit, avec Gabriel Leblot, ce qui était bien, ou même les comédiens, c'est que des moments, moi, j'aime bien les gens qui disent, mais là, on est en train de faire de la merde. Quoi. Là, ça... Et si je pense que c'est pas vrai, je dirais, mais non, j'irai dans mon idée. Mais par contre, j'ai aucun problème à ce qu'on le dise. Et ça arrivait des moments où on était, et c'est vrai, on faisait de la merde, et on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait? On se repose, on réfléchit, on change de plan, on réécrit un peu l'histoire. Et moi, j'aime avoir des gens comme ça qui n'ont pas peur de moi et qui osent me dire ce qu'il en est, même si après, je suis pas d'accord. Parce que après, moi, je suis capable d'assumer si j'ai une idée. Après, je vais être. Mais oui, c'est avant tout c'est une rencontre et j'ai eu de la chance sur ce film-là. C'est vrai que il y a une part de chance dans. Et puis, comme j'ai bourlingué un petit peu sur les plateaux comme assistant, à un moment donné, je sais avec qui j'ai pas envie de travailler et avec qui j'ai envie de travailler aussi. Donc voilà, c'est aussi. Ça fait partie aussi de ça de capter, de savoir que. Voilà. Et c'est vrai que ce film-là, moi, j'ai un côté un peu. J'ai envie de tout contrôler. Et je suis content quand il y a des gens qui sont plus talentueux que moi dans leur domaine. Enfin, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils me mettent devant mes lacunes et qui me disent... voilà. Et c'est vrai que là, il y a vraiment eu beaucoup de talent accumulé dans ce film. Je suis très content.
En chantant, j'ai compris d'après vos propos que c'est une histoire aussi de rencontre. Donc de kairos, comme disaient les Grecs anciens, saisir les bonnes occasions, les bonnes suggestions au vol. Le film a été présenté à Tübingen en novembre 2021. Aux Journées de Soleure en janvier 2022, quel a été l'accueil lors de ces occasions de présentation?
Alors, l'accueil, et toutes les projections que j'ai faites pour l'instant, est plutôt bon. Alors moi, c'est marrant parce que comme j'écris des films quand même assez étranges, je me dis toujours que ça va être super partagé. Et je suis assez... Je pense assez ça, moi, souvent... Enfin, les films que j'aime, ils laissent pas indifférent. Et souvent, c'est... Il y a des pour et des contre. Et
mitigé.
Enfin, il y a des gens qui ont des rejets. Et là, je suis assez étonné parce que pour l'instant, j'ai pas vu de rejet On sent dans les salles, les gens ne sont pas obligés de venir nous parler à la fin. Et je fais d'autres films avant. Et du coup, je vois aussi quand des gens, même dans les questions, ils ont des choses qui les ont dérogées. Et je suis assez étonné. Je pense que c'est un film plus grand public que je ne le pensais. En fait, c'est assez étonnant parce que je pensais qu'il y a des gens que ça les... Ouais, ou même vraiment heurté. Et je pense que ça les travaille. Je vois, il y a des gens qui m'ont dit que ça leur laissait quelque chose pendant plusieurs jours. Ça les a travaillés. Ce que je pense que... bien pour un film, déjà s'il reste une trace à la fin de la projection, ce qui n'est pas le cas de tous les films. Mais étonnamment, j'ai l'impression, même des jeunes et tout ça, que ça touche plus de gens que je le pensais. C'est plutôt... Donc, je me suis dit, ça a heurté mon côté un peu poète maudit. Je me suis dit, oulala, est-ce que j'ai fait un film consensuel ? Mais c'est intéressant, c'est que vraiment, je remarque qu'on a une idée aussi quand on fait un film et on ne sait jamais comment il va être reçu. Et j'ai été étonné, j'ai assisté à une projection, je crois que c'était à Soleure, où les gens riaient beaucoup. Parce que c'est vrai qu'il y a un côté aussi drôle des moments, évidemment, vu que ces personnages font des choses des fois bizarres, ça donne des situations un peu absurdes qui peuvent être drôles, en fait. Et je me suis dit, mais en fait, les gens rient plus que je pense, et il y a aussi, ils ont saisi cette dimension comme ça. Donc, l'accueil est plutôt bon, de ce que j'ai vu, est plutôt bon pour l'instant.
Alors, donc, on rappelle que Chroma sort le 6 juillet sur les écrans. On va lui souhaiter plein de succès. Pour revenir à vous, vous êtes né à Neuchâtel, mais vous avez fait l'école de théâtre au Conservatoire Libre de Paris. Qu'est-ce que ça vous a apporté, cette expérience ?
Alors, c'était étrange parce que moi, je suis pas du tout... je voulais pas faire du cinéma là-bas. Je faisais de la musique et en fait, ça... Puis ma mère, elle voulait que je fasse un apprentissage de mécanicien de précision. Donc, j'ai fait pour avoir un vrai métier. À Neuchâtel, au cinéma, c'était pas un métier. À 20 ans, comme ça, sur un coup de tête, je suis parti à Paris, mais vraiment en me disant, allez, je veux faire du cinéma, mais je savais pas. J'avais vu Rocky 2 et Rambo 3, c'est tout. Et j'avais zéro culture cinéma. Donc, je suis parti à Paris comme ça. Et l'école, pour avouer, c'était pas une école géniale, c'était une école privée. Donc j'ai travaillé en usine à la Chaux-de-Fonds pendant l'été pour me payer mon école à Paris. J'ai fait voilà. Mais ce que j'ai vraiment appris, c'est déjà me débrouiller à Paris tout seul. Donc c'était une école de vie avant tout. Et puis quand même, c'est-à-dire que j'ai fait ma culture cinéma, c'est-à-dire que j'ai vu beaucoup de films à l'école. J'ai eu quelques profs quand même intéressants d'analyse du cinéma. Et surtout, ce que j'ai fait, c'est que j'étais à Paris et tous les matins à 11h, parce qu'à l'époque, il y avait des séances de cinéma je crois que c'était 20 francs français. Voilà, ça coûtait genre 5 francs suisses le cinéma. Et donc, je suis allé tous les matins au cinéma et j'ai vu tous les classiques, Citizen Kane et compagnie au cinéma. Et c'est vrai que je me suis pris ça un peu... vraiment par hasard, en fait. C'est que, genre, du coup, moi, j'étais vraiment allé un peu pour me dire je vais faire un truc peut-être presque même parce que c'est le côté plus paillette, enfin pas paillette, mais le côté un peu cinéma, je vais faire du cinéma. Et là, tout d'un coup, j'ai commencé à lire des livres, j'ai commencé à voir des films, et ça m'a ouvert tout d'un coup un horizon que j'avais pas imaginé. Parce qu'à l'école, j'étais un peu. Je sais pas, on m'a dit toute ma vie que l'école c'était pas pour moi, alors que je pense que je devais plutôt avoir un truc, je m'emmerdais parce qu'en fait...
c'était pas assez passionnant.
Voilà, et puis c'était relativement facile, donc je donne le minimum, et c'est vrai que du coup je me suis dit, ah mais tiens, ça c'est peut-être une façon de m'exprimer qui peut me correspondre, les images, le... et voilà, donc c'était un peu un hasard. Une rencontre, exactement, encore voilà. Et j'aime bien des fois faire les choses comme ça, un peu sur un coup de tête.
Et alors, là, vous accompagnez la sortie de Chroma. Est-ce que vous êtes déjà en train d'écrire ? Est-ce que, pour l'instant, vous devez digérer tout ce travail, toute cette émulation ? Comment ça se passe pour vous ?
Oui, alors là, j'ai eu un peu de temps, parce qu'en fait, le film, il est fini depuis pratiquement 2 ans. Et évidemment, avec toutes ces histoires de Covid, il y a eu les salles de cinéma qui ont fermé, les festivals qui étaient annulés. Les listes d'attente de films qui devaient sortir. Donc les distributeurs, ils ont je ne sais pas combien de films à sortir par semaine. Donc voilà, il y a eu de longues tractations pour savoir quand, comment le film sortait, pour qu'il ne soit pas noyé au milieu de toutes les sorties qui devaient se faire. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais en même temps, voilà, j'ai eu le temps de le digérer. Après, moi, je ne suis pas un spécial rapide. Je n'arrive pas à avoir multiplié les projets comme ça. Donc on m'avait proposé plusieurs choses que j'ai refusées parce que ça m'intéressait moyennement. Pour répondre à votre question, oui, j'écris plusieurs projets. Un projet d'adaptation d'un bouquin, d'un thriller neuchâtelois, d'un écrivain neuchâtelois qui m'a demandé de travailler à l'adaptation et peut-être de le réaliser. Et j'écris avec un autre scénariste une série de science-fiction assez ambitieuse qu'on a été pitché au Festival de La Rochelle, qui a intéressé des grandes chaînes américaines, mais voilà, c'est un peu compliqué, la télévision suisse n'était pas tellement chaude, voilà, donc mais on est en train d'essayer de monter avec ces histoires de loi Netflix qui sont enfin passées et tout ça, de monter ça avec des plateformes. Espérons, parce que voilà, c'est une série qui demande un peu de moyens, parce qu'évidemment la science-fiction c'est un peu complexe, voilà, mais c'est voilà, j'ai aussi envie de faire un projet ou peut-être un poil moins auto-centré avec d'autres gens et je trouvais que ce qui est pas mal, c'est que ça permet aussi d'aller, enfin c'est avant tout sur les personnages, mais ça permet aussi de pousser un peu les curseurs, la science-fiction, et de s'amuser un peu avec il y a un fond de surveillance de masse comme ça, d'idées forcément de la société, et du coup on peut s'amuser en disant voilà, quelles pourraient être les dérives et qu'est-ce que ça pourrait arriver. Voilà, donc j'ai ce projet-là, j'espère qu'il va se débloquer en fait.
Du bois, voilà. Du marbre.
Bah, il y a aussi le marbre, c'est pas mal.
En tout cas, Jean-Laurent, j'entends plein succès déjà pour Chroma. Merci de cette rencontre. Merci. Et puis plein d'émulation pour les autres projets. Là, on commence à cuire parce qu'on est sous une verrière. Merci pour cette rencontre.
Oui, mais merci à vous, c'était très sympa.